froid chez soi. Quelle chaleur épouvantable, n'est-ce pas, Léo? La campagne a quand même du bon, voyez-vous.
Au point que vous ne pouviez rester deux jours de plus à Paris.
CO2, mon amour.
Voici le poulet de madame.
Oh, mon petit pouic-pouic, que ça me meut. C'est pas beau, ça. Oh, j'en vous connais ça. On va dire bonjour à son papa. Hein, pouic-pouic, pouic-pouic. Bonjour, papa. Papa, pouic-pouic. Oh, c'est malin. Voilà qui va nous faire la tête pendant des heures. Pouic-pouic.
Avec Denis Chessou.
On a été sage pendant l'absence de sa maman.
On a cassé trois tasses à son réveil.
Ouh, et ton espiègle.
Sur France Inter.
Ah bah oui, on commence très fort, il n'y a pas de raison, un petit coup du pouic-pouic, ça ne peut pas faire de mal. Bon, nous, ça ne va pas être exactement les mêmes animaux, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir, CO2 mon amour, donc la nature qui chuchote à vos oreilles, même le 1er mai, avec Thomas Langlin à la technique, et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise, qui colorise l'émission. Alors avant nos aigles pêcheurs, ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas? Eh ben, il faut quand même une sacrée patate pour adresser une formule combative quelques heures à peine après être sorti du quinquennat précédent, qui apparemment ne l'était pas très violemment, ou alors on a loupé des épisodes. Les mots, toujours les mots, chantaient Dalida. Et Gérard Majax, mystérieusement sorti d'un carton recyclé, en sait quelque chose, lui qui savait si bien manipuler les cartes. Encore s'agissait-il de divertissement du siècle passé pour des foules anesthésiées par 40 ans de consommation à outrance, sans contrainte, un temps. Ah, merveilleux. Ici, il s'agit d'urgence. Nous ne sommes plus sur scène et la belle jeunesse 2.0 sait aujourd'hui ce qui l'attend. Elle exige du concret. 50 degrés au Pakistan en avril donne une petite idée du paysage futur qui va rapidement s'imposer à tous. Alors, les mots ne suffiront pas. Il faudra se remonter les manches et remettre les sciences du vivant à l'honneur en ne les rendant pas facultatives, comme c'est le cas depuis 2019. La dégringolade de la biodiversité, l'empoisonnement chimique des terres et des océans, l'irrespect des principes naturels fondamentaux, des équilibres biologiques, les pollutions et la prolifération des déchets ne s'arrêteront pas, me semble-t-il, tout seuls. Comment faire un jour du business sur une terre morte? Eh ouais. Alors il faut une volonté hautement politique, des actes forts et un vrai récit du futur, sans mettre sous le tapis les mots et les faits qui font mal, comme pénurie, restriction, submersion, chaleur, sobriété. Un peuple éclairé, éduqué et prêt à des sacrifices, à remettre le curseur de la fable d'une croissance infinie dans un monde fini à sa place, à modifier ses comportements. Aujourd'hui, on nous dit en gros, changer un peu de comportement, ça bien sûr, mais la technique va nous arranger tout ça. Eh ouais. Même une entreprise de démolition expérimentée ne saura pas déconstruire assez vite le mur dressé devant nous. Encore faut-il donc accompagner le citoyen, lui donner les moyens de mettre en œuvre les mille et une inventions sociale, technologique aussi, dont elle est porteuse, et faire appliquer le code de l'environnement. Sinon, oh bon, on peut toujours faire pire. Il n'est pas de sauveur suprême, on le sait. Forgeons nous-mêmes notre forge, battons le fer puisqu'il est chaud, au-delà du raisonnable. Écologique, social, environnemental et productif sera le quinquennat, c'est à souhaiter. Alors se lèvent toujours des esprits forts et responsables pour dire aux écolos de brailler moins fort, car le pouvoir d'achat, vous savez, la misère sociale, les hôpitaux, la sécurité, l'emploi, la production sont d'une importance plus criante que le chant du rossignol. Certes, mais tout est lié. Et une fois ces légers problèmes réglés, à la condition qu'ils le soient un jour, le citoyen comblé arpentera des trottoirs surchauffés, pourra boire une eau limite à la consommation. L'agriculteur enchaînera les danses de la pluie devant ses hectares asséchés et nourris au glyphosate. Le pêcheur revendra son bateau pour survivre après trois saisons à chaluter du plastique. Bref, le bipède humain, roulant carrosse, bien plus fort que le climat, la nature et les virus en préparation, trouvera-t-il enfin le bonheur quand forêt, abeilles, rossignols, éléphants, papillons, paysages ne seront plus que des souvenirs enfouis. Alors les avions se disaient « Mais nous, on va quand même pouvoir voler !»« Bah oui, t'en fais pas, le kérosène est toujours détaxé hein. !» Jean Castex, au deuxième tour, a pris un avion de ligne au lieu d'un avion privé pour voter à Prades. C'est donc un signe positif. On attend à présent le géant vert avec impatience, avec un brin de joli muguet à la main. Alors les balbuzards, donc les aigles pêcheurs, ne défileront pas dans le ciel, ne cueilleront pas de muguet, car ils mangent que des poissons. On va donc les découvrir dans le Loiret et en Corse. Et donc c'est parti pour cette page de nature. C'était Métronomie sur France Inter, vous écoutez CO2 de mon amour, bien sûr. Et qui rajoute-t-on dans notre joyeux bestiaire?
Alors ça, c'est le sifflement, effectivement, du balbutiant pêcheur. Alors là, il est un petit peu en alerte, quand même. Il est le maître des airs, le maître de la pêche en milieu aquatique. Bon, et puis c'est aussi, je dirais, un peu l'oiseau emblématique de notre département, parce que voilà, il est revenu pour la première fois en France continentale, en forêt d'Orléans.
Qu'est-ce qui vous plaît dans cet animal ?
Déjà, effectivement, la beauté. Son comportement, qui est quand même assez inédit en fait par rapport à toutes les autres espèces d'oiseaux qu'on connaît dans notre région, hein, avec cette technique de capture en plongeant avec des cerfs, c'est quasiment le seul rapace qui est capable de faire ça, en tout cas même en France.
La Loire n'est vraiment pas loin. Nous sommes dans le département du Loiret, nous sommes à Mardié. Alors, lieu de tranquillité, vous avez des aunais, des frênes, des chênaies. Donc, c'est parfait pour ce rapace qui est peu connu, disons-le. Balbuzard, vous avez dit balbuzard. Mais bien sûr, comme c'est balbuzard. Alors, buzard, ce serait à rapprocher de la racine qui a formé le nom des buses. D'abord à cause du bruit, voilà, la buse, animal bruyant. Donc, on a ça aussi. Et puis aussi, pour le bal, mais là, ça vient de l'anglais, chauve, marqué de blanc. Je tiens tout de suite à saluer le travail, l'opiniâtreté de Jean-Marie Salomon. Jean-Marie Salomon, il a créé l'association Mardiéval, donc le Val de Mardié. Et puis, donc, cette fameuse Balbucam, donc Balbucam, caméra pour la cam, bien sûr, et Balbu, vous l'avez compris, le Balbuzard. Vous pouvez d'ailleurs nous écouter tranquillement, vous mettez votre ordinateur, vous tapez Balbucam et vous avez donc les animaux en train de couver. Donc toute une équipe de bénévoles, dont Jérôme Lamour, d'ailleurs informaticien naturaliste, à qui on doit beaucoup de partage d'images. Et donc là, nous entrons dans cette forêt, donc on n'est pas loin de la Loire, je vous le disais, avec Cyril Morère, qui est le directeur de la Maison de la Loire à Jargeau.
Là, on est justement dans les bois de la Tingie, sur la commune de Mardié. Ouais. Et on est vraiment à proximité directe, mais toujours quand même un recul nécessaire, avec une vue sur le nid, justement, de balbuzard pêcheur. Alors, c'est pas un nid naturel, hein, à la base. C'est une plateforme qui a été montée par un groupe de passionnés, en fait, en 2007. Et donc, oui, cette aventure nous a mené à construire cette plateforme, qui a été une vraie réussite, puisque l'année d'après de sa construction, on a déjà eu quelques oiseaux qui sont venus la fréquenter.
Parce qu'ils se sont dit, le coin est sympatoche, j'ai du poisson à volonté, ça a été quoi ?
Déjà, il y avait un site d'accueil pour se reproduire qui était plutôt favorable. Ouais. Je vous ai expliqué que la plateforme avait été mise en place et dès la première année, elle a commencé à être rechargée. Donc, c'est-à-dire que les oiseaux ramènent du bois en fait pour construire leur nid. Ouais. Et effectivement, on suppose que ça leur a bien plu parce qu'ils avaient le gîte et le couvert à proximité. Et le fleuve, effectivement, est un moyen pour eux de trouver de l'alimentation en abondance.
Pour les observer, évidemment, il y a cette fameuse Balbucam qui est vraiment maintenant quasiment une marque. Et là, on est en train de marcher en fait sur un chemin, mais vous avez creusé parce qu'il a fallu apporter du courant quand même.
Mais oui, parce qu'il y a de la technologie effectivement en place pour pouvoir justement apporter l'image à toutes les personnes passionnées qui regardent le site Balbucam. Donc effectivement, la contrainte était de faire une tranchée à la main, je précise, hein, d'environ 500 mètres de long pour ensuite, permettre d'avoir l'électricité directement au niveau de la caméra qui se situe au niveau du nid.
Alors là, c'est intéressant parce que ce soit pour les cigognes ou bien cela, c'est le point commun, c'est-à-dire que l'être humain donc favorise, aide, donne un coup de pouce à ces oiseaux.
Oui, là, l'idée, c'était ça. Et puis, on sait aussi quand même que les forêts de nos contrées sont quand même beaucoup exploitées. Ouais. Donc, d'avoir aussi des forêts privées, on va dire, où il y a de la quiétude, est très, très intéressant pour ces oiseaux qui ont vraiment besoin de non-proximité directe avec l'homme.
Ce fameux balbuzard, hein, on va dire l'aigle pêcheur, ben justement, il a besoin d'énormément de tranquillité.
Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, quand on a commencé à se diriger sur le chemin, on a des points d'observation, nous, pour pouvoir l'observer à la longue vue, mais on reste toujours à peu près 250 mètres, 300 mètres de distance pour justement éviter tout dérangement.
Ah, alors là, je vous suis. C'est vous qui êtes le GPS, c'est parfait. Ah, alors là, on arrive. On ne va pas faire de bruit et surtout on va se mettre à distance parce qu'on voit quand même ce séquoia. Je ne vais pas rajouter géant parce que les géants sont encore plus hauts. C'est marrant parce qu'il a été décapité ce séquoia peut-être pas.
Alors en fait le choix de l'arbre pour installer la plateforme ne s'est pas fait au hasard. Effectivement là on est sur un séquoia qu'on peut quand même considérer comme géant par rapport aux autres arbres de la forêt, qui était justement idéal puisque dominant en fait parmi les arbres du lieu sur lequel on se trouve et qui a justement été foudroyé quelques années avant l'installation de la plateforme. Donc en fait les oiseaux pour pouvoir installer leur nid sont souvent au sommet des arbres, en tout cas pour les balbuzards pêcheurs, hein, et profitent, je dirais, d'arbres, notamment beaucoup de pins ou ce genre d'arbres, qui ont eu la tête cassée. Voilà. Et donc là, idéalement, ce séquoia dans ce bois dans lequel nous nous trouvons, avec une dominance sur quasiment la totalité du bois, et en plus de ça, avec sa
tête
cassée.
Un œil sur la rivière aussi.
Alors,
pas complètement. Il faut qu'il décolle là.
Là, en fait, il ne peut pas voir directement le fleuve, mais bon. C'est tout comme, en tout cas, il peut faire la vigie aussi parce qu'il a besoin d'avoir une vision un petit peu à 360 degrés autour de son arbre pour voir également si des intrus ne rôdent pas autour parce qu'il y a aussi une défense du nid qui doit être mise en place.
Alors la prédation, ça peut être qui, en tout cas les attaques?
Alors la prédation directe, on va dire que sur des poussins ou de jeunes oiseaux, il y en a très très peu malgré tout, parce qu'il y a une défense des adultes quand même qui est présente.
Il niche pas au sol. Hein,
non, il niche pas du tout au sol. Par contre, effectivement, il y a des passages un petit peu délicats, notamment quand on est sur la période des œufs, où les martres, par exemple, peuvent venir sur un arbre.
Ça grimpe, hein, une martre.
Voilà, ça grimpe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a installé sur le tronc de l'arbre
un panneau, Madame la martre, s'il vous plaît, veuillez
un panneau qui est un peu plus qu'un panneau, en fait, qui est une plaque en aluminium qui se trouve autour du tronc de l'arbre pour justement éviter que les martres
puissent monter. Elle ne peut pas s'accrocher, là.
Elle ne peut pas s'accrocher, exactement.
Et alors, le nourrissage, comment ça s'opère? Je suis donc balbuzard, je suis femelle, je suis mâle. Alors, si je couve, qui fait le boulot?
Alors ça, je dirais que ça dépend complètement des couples de balbuzards. Effectivement, on a plutôt tendance à penser que les femelles couvent et les mâles vont chercher à manger. Ouais. En fait, il y a des comportements différents. Très concrètement, là on voit que sur le couple qui est installé, Sylva et Reda, depuis quelques années sur ce nid, eh bien se partagent complètement la tâche. En fait, donc il y a une alternance pour la couvaison et pour le gardiennage des jeunes une fois que les œufs sont éclos.
Pas terrible l'atterrissage.
Papa, tu t'attendais à quoi? T'as qu'à pas me hurler des trucs quand je suis en plein vol.
Ah oui, et tu voulais voler quoi?
J'essayais de m'entraîner à voler en raspat.
Heureusement que tu as un casque.
J'ai pas de casque.
Ça suffit, il est temps de vraiment s'entraîner.
L'animal rentre ici, allez quoi, on va dire à peu près fin mars. Après, on joue quand même à la parade amoureuse, sinon c'est pas drôle. Hein, donc...
Oui, alors là, il y a malgré tout toujours quelques petits rapprochements, quelques petites parades, mais depuis 5 ans maintenant que ils se connaissent bien. Alors par contre, ils n'arrivent pas forcément ensemble. Hein. Il peut y avoir 4-5 jours de décalage. Bon, ils se reconnaissent très rapidement et effectivement, déjà, on passe aux premiers événements qui sont la recharge du États-Unis, donc on ramène des nouveaux bouts de bois, etc.
C'est quand même assez, assez volumineux là.
Mais on a des nids, enfin c'est plusieurs dizaines de kilos de branches qui sont apportées.
Ah tiens, un autre apace là.
Balbu. Là, c'est lui qui gueule.
Incroyable.
Donc là, si on arrive à prendre le son, là, on entend un balbuza qui nous a repéré et donc qui chouine, en fait.
Mais là, c'est un autre balbuza alors qu'il était...
Alors là, le truc, c'est que on l'a vu passer, je ne l'ai pas complètement identifié, mais on peut peut-être imaginer effectivement que ce soit un de nos deux oiseaux qui forme le couple de mardiers. Et alors, ça, c'est le sifflement, effectivement, du balbuzard pêcheur. Alors là, il est un petit peu en alerte, quand même.
Ouais. Oui, mais t'inquiète pas, on ne s'approche pas de ton arbre. On observe, on a la distance de fuite nécessaire. N'aie pas peur, on ne va pas aller te piquer du poisson comme ça tout de suite non plus dans ton garde-manger qui s'appelle la Loire. Donc là, tourne autour de son nid, tourne autour de l'arbre. Alors ça se trouve, sa compagne ou son compagnon, parce que là, je suis pas assez bon là pour voir si c'est une fille ou un garçon... Et en place, bah ouais. Pourquoi ça nous en fait, Cyril, donc un oiseau, on va dire, assez rare, parce que donc il est arrivé dans les années 70 en Corse, ça on le sait, et puis après, donc chez vous, dans cette région Centre-Loire, on va en dénombrer, allez, on va dire une cinquantaine d'oiseaux, donc ici, entre la forêt d'Orléans, où vous êtes, etc.
Alors, pas une cinquantaine d'oiseaux, on va considérer peut-être qu'on est à une cinquantaine de couples, maintenant, en région centre, que dans notre département. Ensuite... le premier couple de balbuzards continental est revenu s'installer en forêt d'Orléans au début des années 80, 1984 pour être précis. Quand des oiseaux s'installent comme ça, il y a d'autres individus pendant leur migration, puisque beaucoup d'oiseaux vont nicher dans les pays beaucoup plus au nord, voient qu'il y a des individus qui se sont installés et qui vraisemblablement ont eu des réussites au niveau de la reproduction. Donc... d'autres oiseaux se lancent dans l'aventure. Et donc, c'est comme ça que la dynamique, en fait, de réinstallation de l'espèce s'est mise en mouvement. Bon, après ça, voilà, c'est très, 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 très lent. Les premiers couples, effectivement, se sont installés dans le département du Loiret, en forêt d'Orléans. Après ça, on a eu des couples un petit peu en forêt de Chambord aussi. Et donc, depuis, on va dire, ces 30 dernières années, voilà, il y a une petite dissémination, comme ça, d'individus. Et maintenant, on dépasse un petit peu plus que la région centre au niveau de l'espèce qui s'est réinstallée.
Et comme nous aimons bouger du Loiret, nous allons partir en Corse dans quelques instants dans la réserve de Scandola, toujours pour voir un autre balbuzard.
Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre. J'ai grandi loin des futaies, où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, pour pousser je me débats, mais mes branches volent. Qui fume entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville. J'ai la fumée des usines pour prison et mes racines. On les recouvre de gris, comme un arbre. Comme un arbre dans la ville. des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, on arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu. Parking d'honneur posthume entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville. Ami fait après ma mort, barricade de mon corps et du feu de mes brindilles, comme un arbre.
Quelle belle reprise de Le Forestier, ça c'était donc la grande Sophie comme un arbre et donc une découverte, je tiens à le dire, de Thierry Dupin, notre programmateur, et de Xavier Pestugia.
Moi, je me levais tôt.
CO2, mon amour.
Avec la lumière, aller pisser, dehors, contre un arbre. Putain.
Denis Chessou.
Pisser contre un arbre.
Sur France Inter.
Oui, ça, ce sont des petites joies tout à fait masculines. Merci à vous, donc Jean Rochefort. 1200 km aller à vol de migrateur. On part en Corse, au sud de Calvi. On reviendra après dans le Loiret. On va du côté de Galeria, à la réserve de Scandola. Et Jean-Marie Dominici en a été le garde. Et les balbuzards réfugiés savent ce qu'ils lui doivent, parce qu'en Corse, il y avait 3 couples en 1974. Ils sont plus de 25 aujourd'hui.
C'est un coup à prendre, mais c'est pas très dur de faire un créneau avec votre bateau quand même.
Surtout lorsque la poignée est cassée.
Oui.
Non, mais c'est une question d'habitude, le créneau c'est facile.
On est en fin d'après-midi, on est sur un soleil couchant. On va rappeler que cette réserve de Scandol, on la doit en fait au volcanisme à l'origine.
Voilà, c'est un complexe volcanique qui date de la fin de l'ère primaire, début de l'ère secondaire, et qui, par sa conception géologique, fait que nous avons plein de promontoires qui dominent la mer.
Ouais, c'est
et c'est ça qui est le biotope favorable pour la fixation d'un site de nidification du balbuzard.
Il ne va pas dans les anfractuosités, il est toujours au sommet.
Il est toujours au sommet. Pour être bien exposé à l'air marin, pour bien se ventiler, puisque c'est un oiseau qui ne va pas nicher dans les grottes, qui nique carrément sur le promontoire, et avec l'air marin, en faisant de l'ombre à ses petits poussins, il arrive à créer une ventilation qui permet à cette espèce, au poussin de vivre. Ouais. C'est-à-dire qu'il sera vital pour le poussin de rester à l'abri des rayons de soleil en se mettant sous la mer.
Oui, parasol,
la mer joue le rôle de parasol. Et ça, c'est un côté très important pour la vie de cette espèce. Vous voyez qu'on est au bord des falaises rocheuses de la réserve de Scandola. Et vous voyez ces pitons qui font environ 50 à 70 mètres de haut et qui dominent la mer. Et de là, le balbuzard arrive à observer les poissons pélagiques dont il se nourrit, comme le mulet, les oblades, tous les poissons qui vivent en surface. Et comme les eaux de Scandola sont très claires...
C'est-à-dire qu'il ne plonge pas forcément très profond.
Il arrive à plonger au maximum de 80 cm.
Ouais.
C'est-à-dire que la vitesse, comme c'est un rapace qui est très rapide, un peu comme le faucon pèlerin...
D'accord.
Les serres en avant, les pattes en avant, il prend avec les serres.
Voilà.
Il peut pénétrer dans l'eau avec la vitesse à une profondeur maximale de 80 cm.
Ils ont une vue étonnante, quoi. Ils voient des choses que nous, on ne repère pas.
Voilà, ils arrivent à voir des petits poissons, en plus qui arrivent à se faufiler entre les petites criques et les infractuosités rocheuses. Bon, dans l'ensemble, c'est un très bon chasseur. Le vent nous pousse un peu vers les rochers, donc on va se dégager un peu.
Ah oui, là on fait une petite manip, parce qu'effectivement on est vraiment au pied maintenant de l'habitat de l'aigle pêcheur. Alors ce qui est toujours étonnant, c'est donc tous ces dégradés de couleurs de pierre. On a des verts, on a des rouges, on a des ocres. Et tout ceci étant souligné ou bien rehaussé par la végétation, enfin c'est fou quoi.
Ouais, le contraste de couleurs entre le vert de la végétation et les ocres et les couleurs grisâtres des basaltes sont vraiment super. Bon là on va quitter ce site qui est magnifique pour se rendre dans la baie d'Elbe qui est le cœur de la réserve de Scandola, pas loin de la zone intégrale.
Alors là, autre lieu de la réserve et autre nid, C'est sacrément construit, hein. C'est une petite tourelle.
Voilà, c'est un autre site de nidification qui est dans la baie d'Elbeau, qui est dominé par une magnifique petite tour génoise. Voilà. Le nid est vraiment sur un promontoire rocheux. Et en plus, ce petit rocher est un îlot. Donc les renards, qui sont les prédateurs du balbuzard, n'ont pas accès. Donc il a bien choisi le site, vous voyez.
Oui. On évite les renards alpinistes. Hein.
Voilà.
Non, nous ne sommes pas des poissons. C'est pas la peine de nous regarder comme ça. On est trop gros. Trop gros pour toi, Pépère. Jean-Marie Dominici, racontez-nous maintenant l'histoire de Madame et Monsieur Balbuzard.
Le Balbuzard, le mâle, puisque c'est le premier qui arrive sur le secteur, arrive aux alentours du mois de février. Et c'est lui, par des parades amoureuses, qui va fixer une femelle. En général, c'est toujours la même, il y a une fidélité du couple. Il attire la femelle sur le site en lui présentant une offrande. C'est un peu comme pour l'homme, hein. Il faut qu'il fasse le beau en attirant une belle femelle. Donc là, en général, il va pêcher un très beau poisson. Il va exhiber par des vols très acrobatiques. Le poisson, il va le faire briller avec les reflets du soleil. Et là, il va attirer donc une femelle, il va la fixer au nid. Il va avoir lieu les accouplements sur le nid. Et à partir de là, la saison de reproduction va commencer avec, à partir de l'accouplement, environ une semaine à 15 jours après, la ponte de 3 à 4 œufs par couple. Donc là, on va se retrouver dans un petit moment, tout seul, dans la réserve.
C'est bien.
Comme il y a quelques années en arrière, quelques centaines d'années, où on pouvait observer une petite galère qui venait chercher du charbon de bois, ou une petite barque de pêche qui venait se déplacer à la voile, poussée par la tramontane.
Ah oui.
Et le balbuzard est bien vigilant et présent sur la zone.
Beau personnage, en tout cas sacrément efficace, Jean-Marie Dominici. Alors, retour dans le Loiret, avec donc un nid avec vue sur la forêt et le fleuve, mais aussi sur les travaux proches. Un nouveau contournement routier dont on raffole, qui réjouira les automobilistes d'ailleurs près de Jargeau, parce que là c'est très 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 discuté dans le coin. Notre aigle pêcheur donc a décidé d'éviter le covoiturage, il me l'a dit, et tentera aussi d'éviter les collisions, ça c'est encore autre chose. Est-ce qu'il restera? On ne sait pas. Alors, comme je veux que vous soyez d'abord au point, mais vraiment sur l'aigle pêcheur, hein, que vous puissiez frimer en société, on va retrouver donc Cyril Morel. Nous sommes toujours à Mardier, dans ce bois. Je n'ai pas de canne à pêche, je n'ai pas de permis de pêche. En revanche, j'ai une vue extrêmement perçante comme tous les rapaces. J'ai un très bon bec et puis aussi des serres. Il faut peut-être avoir des serres un peu spéciales parce que je rentre dans l'eau alors, pour agripper tout ça et que ça glisse pas.
Alors, c'est des serres de rapaces, hein, oui. mais effectivement, par contre, la technique de capture est un petit peu différente de celle qu'on connaît des autres rapaces qui chassent directement sur terre. C'est ce qui fait une des caractéristiques aussi du balbuzard pêcheur, c'est qu'il a une technique de pêche assez... Enfin, époustouflante, je dirais.
Images, c'est dingue. Alors, d'abord, il se met à l'affût. Bon,
alors, en fait, il survole la Loire. Hop, il repère un poisson. Faut qu'il soit suffisamment quand même en surface pour pouvoir le capturer, parce que s'il est à un mètre sous l'eau, c'est assez compliqué. Bon, à un moment donné, le balbuzard, quand il repère sa proie, se met, on va dire, en vol stationnaire. On appelle ça le vol du Saint-Esprit, exactement, comme le faucon cresserelle qu'on connaît dans nos campagnes. Et puis, quand il sent que le moment est bon, il plonge directement dans l'eau, les serres en avant pour justement capturer le poisson qu'il a repéré. Les balbuzards pêcheurs, même de la forêt d'Orléans, viennent pêcher en Loire. Après ça, on s'aperçoit que des fois, la Loire n'est pas très favorable. Hein. Même pendant la période de nidification, on peut avoir une Loire un petit peu en crue, où l'eau est très turbide, en fait, et donc le poisson très peu visible. Donc après ça, ils ont des moyens de repli, puisqu'on est dans une région où il y a pas mal d'étangs également. Hein, donc on sait que les balbuzards vont aussi beaucoup pêcher dans les étangs. Il y a même une année où on a même vu sur le nid de Mardier un poisson rouge.
Ouais.
Ramené par
un poisson rouge. Ah oui, ce qui veut dire qu'il y a peut-être un gamin qui se dit « Ah bah, où est-ce qu'il est, Bubule ? Il est parti, il n'est plus dans les temps. »
Bah, vraisemblablement.
Ou dans la mare.
Je ne sais pas si ça s'appelait Bubule, mais... Non, mais en tout cas, effectivement...
Le poisson qui ne s'appelle pas Bubule.
Mais il peut arriver vraisemblablement que des gens ont des petits étangs avec des poissons... effectivement.
Ne vous inquiétez pas pour vos aquariums, tout ira bien.
D'accord. Il n'y a pas jusque dans la maison quand même.
On allait tous deux pêcher sur les bords de la Loire. Quand elle avait soif, je lui cueillais une poire. Quand elle voyait le bouchon de ma ligne qui s'enfonçait, elle faisait « Ouh !» Je faisais « Chut !» Adieu le brochet !» contre. Elle faisait du bruit, mais c'était gentil.
Alors je vais me tourner à présent vers le président de l'association Mardiéval. Bonjour Thierry Solaire.
Bonjour Denis.
Alors vous aussi, le spectacle de ce balbuzard lorsqu'il est en train de pêcher, ça vous épate hein?
Ah oui, surtout de le voir sur le nid après ramener les poissons. Et donc on peut rester effectivement scotché de le voir manger, nourrir les petits. Moi, je l'ai suivi une fois avec la serre coincée dans le poisson. Et alors, il agitait un peu le poisson. Puis deux minutes après, il resecouait un peu. Et on voyait bien qu'il essayait de s'en débarrasser, mais il n'arrivait pas à l'enlever. Voilà, la serre était refermée sur le poisson. Et au bout d'un moment, il a réussi quand même.
Là, nous sommes en fait dans une zone Natura 2000 ici. On est où là ?
Oui, on est sur la zone Natura 2000, le long de la Loire, hein, qui est tout le long proche de la Loire.
Alors, si on regarde en face, on a une pensée aussi pour Maurice Genevoix.
Alors on est très très près de l'endroit où Maurice Genevoix avait trouvé la maison dans laquelle il a vécu toute la fin de sa vie, au bord de la Loire, avec une vue sur la Loire qu'il a décrite lui-même.
Je suis né sur les bords de la Loire, non pas à Châteauneuf, mais à Decy. C'est même dans une île de la Loire.
Dans la Nièvre.
Dans la Nièvre, mais c'est dans une île de la Loire. Alors j'étais dans le haut d'une rue en pente qui me dégringolait presque automatiquement vers la Loire. Je suis devenu pêcheur, je suis devenu un fanatique de la Loire, je l'ai connue, je vivais dessus, au bord, dedans, si bien que elle s'est incorporée en quelque sorte à ma substance et à ma sensibilité profonde. C'est tout à fait naturel et normal.
Alors Thierry Solaire, évidemment, Genevoix, il n'a pas vu la prolifération, on va dire, d'autoroutes qui ceinturent Orléans. La prolifération aujourd'hui de centres logistiques, mais alors qui poussent les champignons, c'est rien à côté. Et donc, il y a évidemment quand même ce combat, parce que cette association et ce balbuzard, c'est aussi un peu le symbole du goudron et du béton. Donc là, l'affaire n'est pas simple, parce qu'il s'agit en fait de construire pour le conseil départemental du Loiret, donc raccourci avec un pont donc qui va relier Gergeau. Ce qui veut dire que le balbuzard, il peut-être un peu condamné aussi par ça ou...
Alors le balbuzard c'est l'emblème en fait, hein, parce qu'à la limite, effectivement, il pourrait s'installer dans un autre bois ou en forêt.
Il y a certains qui disent que pratiquement la plateforme a été installée pour nourrir ce combat.
Oui, ils nous disent que la plateforme est artificielle, mais en fait toutes les plateformes pratiquement où on a des balbuzards dans le Loiret sont des plateformes artificielles. Par contre, le nid lui, il n'est pas artificiel. Le nid il a été construit par le balbuzard sur cet endroit-là. S'il est tout le temps occupé, c'est qu'il est particulièrement adapté. Il est effectivement un endroit à protéger. Alors après, il y a beaucoup d'autres espèces. Il y a aussi des libellules, des batraciens, des plantes qu'on peut trouver. On a une biodiversité qui est très très riche. Mais on est face à des gens qui pensent que non, mais c'est pas grave, on va la déplacer, on va vous reconstruire une forêt durable. Alors ils plantent des alignements d'arbres jeunes et ils prétendent remplacer une vieille forêt.
Alors ça, c'est le combat, de toute façon, entre le sauvage d'un côté, donc ces oiseaux, et puis, alors on va dire, le progrès, mais avec des grands guillemets en ce qui concerne le progrès, de l'autre. C'est-à-dire que ces combats-là sont permanents en France. On va vous dire, oui, mais ça crée de l'emploi. Oui, mais alors après, on va pouvoir sûrement peut-être moins polluer s'il y a un contournement. Enfin, voilà, c'est ce maelstrom dans lequel nous sommes.
Oui, malheureusement, avec beaucoup de contresens, parce que moins pollué, c'est faux. Hein. Dans les documents du département, on annonce une augmentation légère, mais en tout cas une augmentation de la pollution. On sait très bien que c'est une fuite en avant vers un encouragement à se déplacer en émettant des gaz à effet de serre. Et malheureusement, oui, la biodiversité dans l'affaire, elle est considérée comme nulle. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on discute d'un projet, d'une carte, on vous montre un endroit, regardez, là c'est vide. Et quand on leur dit, mais non, c'est pas vide, il y a des arbres, il y a des animaux, il y a des... Non, non, sur une carte, c'est vide. Par contre, dès qu'il y a une maison, c'est pas vide. Sauf que nous, on vit aussi en dehors des maisons, on a besoin de ça pour que l'humanité continue à vivre.
On l'entend bien, là encore. Bien, joyeux balbuzard qui a ni son permis de pêche, ni son permis de conduire. Et pourtant, on peut dire qu'on t'y incite. On te souhaite, au milieu de tout cela, une longue vie.
Alors, bien
bien sûr, ce tracé est assez proche de leur arbre. Hein. Donc, c'est un projet qui a 30 ans, hein, cette affaire-là, ce contournement, donc avec une orientation très routière du département. Vous aurez des zones agricoles au sud qui seront impactées. On est quand même gentiment dans une infraction aussi aux lois des espèces naturelles. Hein. C'est fréquent. Hein. On est en France, donc on déroge à ces lois-là. Parce qu'ils ont quand même dénombré 70 espèces. Et là, on dit non, mais il n'y en a qu'une. Hein. Il n'y a que le balbuzard, etc. Et tout. Bon, d'accord. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire vraiment des sciences du vivant hein, à l'école. Hein. Ça peut pas faire de mal. Je veux dire que c'est résumé en fait dans une très bonne formule, très Lucky Luquesque, du goudron d'un côté et des plumes de l'autre. Alors merci bien sûr à Jean-Marie Salomon hein, et donc et cette balbucalme que vous pouvez regarder dès maintenant, vous les verrez les piafs là, ils sont là-haut. Merci à Thierry Solé, donc aussi à Cyril Maurer donc pour leur accueil, à Thomas Langlin donc pour qui est à la technique aujourd'hui, à Camille Blanès et Xavier Pestugia qui, je vous le disais, a colorisé, trouvé toutes ces subtilités donc dans ce reportage. C'est un vrai art, ça s'appelle une écriture aussi radiophonique. Thierry Dupin donc qui a choisi les disques. Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Et la semaine prochaine, là ça va pas être du bestiaire, mais on va rajouter aussi un département dans notre herbier de paysage, ça va être celui des Ardennes. Moi je suis ravi parce que on parle peu des Ardennes et c'est très beau. Donc on va aller dans le nord de ces Ardennes. D'ailleurs je remercie déjà tout de suite le journal L'Ardennais. On va partir dans le nord où vous avez de la forêt, de l'eau, vous avez la Meuse. C'est un régime en fait qui est quasiment montagnard et pourtant on est à 400-500 mètres d'altitude, donc vraiment à découvrir. J'ai pas pu interviewer Rimbaud, mais ça, j'essaierai de le faire donc une autre fois. Il me reste plus qu'à vous souhaiter donc une excellente fin de dimanche, puis vous en avez l'habitude, Instagram et ainsi que Twitter, et puis les différents podcasts.